Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a officialisé un recours au 49-3 pour faire passer sans vote le budget de l'État 2026. Une manœuvre qui exposera le Premier ministre à plusieurs motions de censure. En Espagne, le Premier ministre a décrété 3 jours de deuil national et a promis une transparence absolue sur les causes de l'accident ferroviaire qui a fait au moins 39 morts hier. Et dans l'international, l'armée syrienne s'est déployée ce lundi dans les zones dont les forces kurdes se sont retirées sans combat dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité au Moyen-Orient, où l'armée syrienne s'est déployée ce lundi dans les zones dont les forces kurdes se sont retirées sans combat dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays, où les clans arabes se sont ralliés aux autorités. En Iran, l'accès à l'Internet mondial redeviendra progressivement possible à compter de 7 semaines, a assuré un haut responsable iranien au 11e jour. Une coupure sans précédent décidée sur fond de contestation et les bilans tenus par différentes organisations d'opposition dénombrent entre 3 000 et 20 000 morts. En Afghanistan, au moins 7 personnes ont été tuées dans une explosion dans le centre de Kaboul, selon l'ONG italienne Emergency, qui dirige un hôpital dans la capitale afghane. Et dans un tout autre volet, la situation humanitaire au Yémen devrait empirer en 2026 avec l'aggravation de l'insécurité alimentaire et la disparition de l'aide internationale, a averti ce lundi l'ONU. Et dans le reste de l'actualité, en Espagne, le Premier ministre a décrété 3 jours de deuil national et a promis une transparence absolue sur les causes de l'accident ferroviaire qui a fait au moins 39 morts hier dans le sud du pays, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a officialisé un recours au 49-3 pour faire passer sans vote le budget de l'État 2026, une manœuvre qui exposera le Premier ministre à plusieurs motions de censure. Et enfin, le musée du Louvre est resté fermé aujourd'hui pour la 3e fois depuis le début mi-décembre. La mobilisation des personnels pour de meilleures conditions de travail, ces fermetures ont généré une perte de recettes d'au moins 1 million d'euros, selon la direction. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Et on débute par l'actualité en Syrie et l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre les forces kurdes. Le président Ahmed al-Sharré dit avoir conclu un texte en 14 points avec le chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi. Intégration des forces kurdes dans les structures de l'État et remise immédiate des provinces comme Deir ez-Zor et Raqqa. Sur le terrain, l'armée se déploie déjà dans l'Est. Et on fait le point avec vous, Nadia Bencher.
Après 2 jours d'avancée rapide de l'armée dans le Nord et le Nord-Est, le président syrien Ahmed al-Sharré a signé ce dimanche un accord avec les Kurdes syriens prévoyant d'un cessez-le-feu et l'intégration de leurs forces au sein de l'État syrien. Mazloum Abdi, chef des forces démocratiques syriennes, FDS, dit avoir accepté pour que cette guerre ne devienne pas une guerre civile et annonce un retrait de ses forces de Deir ez-Zor et de Raqqa vers Asaké. Un texte en 14 points publié par la présidence prévoit l'intégration des FDS et des forces de sécurité kurdes au ministère de la Défense et de l'Intérieur, ainsi que la remise immédiate à Damas des provinces de Deir ez-Zor et Raqqa peuplées notamment d'Arabes. Il prévoit aussi que le gouvernement prenne en charge les prisonniers de l'État islamique et leurs familles détenues dans des prisons et camps contrôlés par les Kurdes. Ahmed al-Sharré précise avoir signé l'accord à distance et annoncé que les détails seront finalisés ou étaient finalisés ce lundi lors de pourparlers avec Mazloum Abdi. La France sera présente selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Juste après une rencontre avec l'émissaire américain Tom Barrack, le président syrien avait appelé à un cessez-le-feu complet. Les États-Unis ont salué l'accord, Barrack évoquant un tournant décisif. Sur le terrain, l'armée syrienne a repris dimanche au FDS le plus grand champ pétrolifère du pays, celui d'Al-Homar, et les forces kurdes se sont retirées de secteurs de l'Est ouest de Deir Zout, dont Al Omar et Al Tanak, selon une ONG. Les troupes gouvernementales ont aussi progressé jusqu'à Tabqa, puis vers Raqqa, où, selon l'agence Sana, deux civils ont été tués par des tirs des FDS.
Merci beaucoup Nadia Bencher pour toutes ces précisions. Et notre second dossier du jour est consacré au plan de paix de Donald Trump à Gaza. Le Conseil de la paix censé gouverner l'enclave prend forme sous les critiques. La Maison-Blanche a désigné un premier organe exécutif chargé d'engager la phase 2 d'un processus fragile. Une phase 2 qui sera plus difficile à mettre en œuvre, comme le souligne Jean-Paul Chagnolo, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient.
Je crois qu'effectivement, la phase 2 pose toute une série de questions. C'est ce que vous avez évoqué. Il y a la question de la gouvernance qui est en train d'être qui avance, c'est-à-dire un conseil de la paix et puis un comité exécutif où il y a des personnalités palestiniennes. Il y a la question du désarmement et du retrait de l'armée israélienne. Et puis, il y a cette aussi possible intervention d'une force de stabilité internationale dont, pour l'instant, on ne voit rien. Donc ça, c'est un peu les points théoriques. Mais avant de continuer, il faut bien comprendre que sur le terrain, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire, au-delà des négociations qu'on peut voir, sur le terrain, les Israéliens sont en train d'installer leur emprise. Comme vous le savez, au terme de cette première phase, ils ont conservé le contrôle d'environ 50-55% du territoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 2 millions et 2 de Palestiniens sont tous obligés d'être dans la partie qui reste, c'est-à-dire 45%. Donc déjà, ça c'est une réalité concrète. Autrement dit, il y a des faits accomplis en ce moment. Il y a aussi la volonté de reconstruire d'abord dans la partie occupée par l'armée israélienne. Autrement dit, il y a d'un côté le débat sur les thèmes qu'on vient d'évoquer, puis il y a une réalité pressante sur le terrain où l'armée israélienne contrôle beaucoup de choses.
L'armée israélienne qui pourrait quitter la bande de Gaza, quelles seraient les conditions pour qu'elle l'accepte ?
Pour l'instant, je ne vois pas l'armée israélienne quitter, pas simplement la bande de Gaza, mais la partie de Gaza qu'elle occupe concrètement et sur lequel il y a des projets fonciers qui sont en train d'être étudiés avec les Américains. Donc c'est ça la question. Théoriquement, elle devrait se retirer, l'armée israélienne, mais il n'y a pas de calendrier. Et de toute façon, elle doit conserver, selon le plan Trump, une sorte de corridor de sécurité, je mets des guillemets à ce terme, qui prend quand même au moins 10% du territoire de Gaza. Donc vous voyez, on est dans cette espèce de contradiction où il y a un plan, mais il y a aussi une réalité concrète qui façonne le territoire aujourd'hui. Et par exemple aussi, pour être très concret, il y a le fait que sur la partie qui reste aux populations palestiniennes, ces 2 millions de Palestiniens, eh bien, on empêche encore l'aide humanitaire d'arriver, puisque une bonne trentaine d'organisations comme MSF et bien d'autres n'ont plus le droit de travailler à partir du mois de février. Donc on est dans cette contradiction-là. Ça, c'est mes premières remarques. On pourrait, si on en vient à ce que vous évoquiez sur la deuxième phase, le Conseil de la paix, pour l'instant, ce qu'on en sait, ce qui a été annoncé, c'est en fait une sorte de tutelle, non pas internationale, mais américaine, puisque c'est Trump qui la préside. Il y a Marc Rubio aussi, qui serait, il y a Kouchner, qui
est le secrétaire d'État, oui.
Il y a aussi Tony Blair. Donc on est dans une sorte de tutelle américano-britannique, ou en tout cas américaine surtout, ce que Blair ne fera que ce qu'on lui dira de faire. Eh bien, on n'est pas du tout dans une internationalisation. Donc que va décider ce conseil américain, c'est quand même une question majeure. Donc vous voyez, on est dans le flou le plus complet, et derrière ce flou très complet, on est dans un rapport de force très, très, très évident, qui est en fait les Israéliens continuent de contrôler l'essentiel. Ils ne sont même pas d'accord avec ce qui va se passer avec le Conseil de la paix. Donc c'est ça, il faut bien comprendre en résumé deux choses. Un, il y a des débats comme ceux qu'on évoque, et deux, il y a une réalité de terrain qui s'impose.
C'était Jean-Paul Chagnolo, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient et place maintenant à la page sport spéciale Cannes avec Mounir Kamouri. Bonjour Mounir.
Bonsoir Nawel.
Alors, que faut-il retenir de cette finale de la Cannes 2025 hein, qui prend fin et dont le Sénégal est le grand gagnant?
Oui, il faut retenir d'abord un match complètement fou, mais surtout une victoire historique du Sénégal. Les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0 après prolongation face au Maroc hier soir à Rabat et décrochent ainsi leur deuxième titre de champion d'Afrique après celui de 2021. Dans une finale d'une intensité rare, marquée par des occasions de part et d'autre et un Yacine Bounou énorme dans les cages marocaines, c'est finalement Pape Gueye qui a délivré le Sénégal à la 94e minute d'une frappe splendide en pleine lucarne. Malgré une énorme pression marocaine et une tête de Naïef Aguerre sur la barre transversale en prolongation, les Sénégalais ont tenu bon jusqu'au bout. Au coup de sifflet final, explosion de joie côté Sénégalais, immense déception côté Marocain. Le Sénégal est donc sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire et confirme son statut de grande nation du football africain.
Sauf qu'au-delà du terrain, cette finale elle a surtout fait parler pour ses polémiques. Un match sous très haute tension. Que s'est-il passé exactement?
Oui, cette finale a été marquée par une confusion totale dans le temps additionnel après l'attribution d'un pénalty pour le Maroc à la 98e minute. La décision a provoqué une énorme colère côté sénégalais. L'entraîneur Pape Thiaw a même demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Le match a été interrompu de longues minutes et des supporters sont entrés sur la pelouse et ont lancé des projectiles créant une scène chaotique. Après le match, les tensions ont continué en conférence de presse. Walid Regragui a violemment critiqué l'attitude de Pape Thiaw. La conférence du sélectionneur sénégalais a été chahutée et finalement annulée pour des raisons de sécurité. Cette finale donc laisse une image très contrastée. Un sacre sportif pour le Sénégal, mais une soirée qui a terni l'image de la Cannes.
Merci beaucoup Mounir pour toutes ces précisions et on vous retrouve ce soir à 18h20 pour votre émission Sport sans frontières spéciale Cannes. Et d'ici là, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.